Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Batteur sans limite. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Philippe Fanfan. Salut Jean-Philippe.
Et bonjour à toi, Aurélien.
Et on va parler de pas mal de choses et à commencer par ton parcours et comme je te disais avant, l'environnement dans lequel tu as grandi, ce que ça t'a apporté d'être dans une famille de musiciens professionnels, etc. Ça peut aider, c'est possible. Et de voir aussi quels sont tes challenges actuels. À quoi est-ce que tu fais face aujourd'hui en tant que batteur professionnel? Qu'est-ce qui te challenge? Quelles sont tes difficultés aujourd'hui? Mais pour commencer, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu as commencé? Comment est-ce que tu en es venu à faire de la batterie?
Alors, en fait, j'ai, comme tu dis, comme tu as dit, mes parents donc sont musiciens. Mon père faisait du piano, du chant, un peu de batterie, des percussions. Et du coup, mes parents avaient un orchestre. Ma mère chantait. Et ils m'emmenaient depuis tout petit, en fait. Ils m'emmenaient dans les concerts, dans les bals. Donc moi, petit, j'étais un peu baigné dedans, quoi. Je les accompagnais, j'avais pas trop le choix. Et du coup, je regardais, ça me plaisait. Mais curieusement, en fait, la musique, vraiment le déclic, je l'ai eu très tard, à 14 ans. Avant, en fait, quand ils m'emmenaient, j'emmenais plutôt mes petites voitures, mes trains électriques, voilà, dans les concerts et que je jouais. Et puis je disais, bon, quand est-ce qu'on rentre, que je puisse continuer à jouer, quoi, dans ma chambre et tout. Donc, il m'emmenait, et puis un jour j'ai eu un déclic, tout simplement parce que il y avait le percussionniste qui était, il n'a pas dû être là, ou il était malade, je sais pas quoi. Et du coup, dans une répétition, mon père a dit, bon, on va faire sans percu. Et puis moi, je dis, ah, moi, je peux faire parce que je connais, en fait, parce que j'entendais les morceaux tout le temps, parce qu'ils étaient récurrents, je les connaissais depuis petit, les morceaux, même si ça changeait, voilà, c'était toujours dans ma tête. Donc, du coup, j'ai commencé un petit peu les percus, mais c'était avec ce que je pouvais faire, quoi. Mais j'avais quand même, je pense qu'il y avait un petit peu le sens du rythme. Donc, du coup, mon père, très fier, il me dit, ah, super, c'est un fanfan, la musique, c'est un fanfan et tout. Et ma mère a dit, ok, mais il faut qu'il prenne des cours, parce que ça suffit pas de réussir à faire un truc, il faut vraiment qu'il prenne des cours pour s'améliorer. Et du coup, j'ai pris des cours de batterie à partir de 14-15 ans. Au début, je voulais pas, et puis après, ma mère m'a un peu forcé. Parce que, comme tout adolescent, je pensais que j'étais le plus fort du monde. Dès que je savais jouer quelque chose, je me disais, ah, ça y est, je suis le plus fort. Et en fait, ma mère a bien hésité, a bien eu raison pour que je prenne des cours à partir de 15 ans, la batterie. Et puis voilà, je me suis mis à la batterie. Avant la batterie, j'essayais un peu la guitare basse, mais mon frère est bassiste. Donc, il disait à l'époque, tu touches pas à ma basse. Je pouvais pas trop toucher à la basse. J'essayais un peu le piano. Je sais que mes parents, à 10 ans, quand j'avais 10 ans, j'avais fait du piano, mais j'avais décroché, j'avais fait juste un an de piano quand j'avais 10 ans. Et du coup, voilà, on va dire vraiment la musique, j'ai commencé à partir de 14 ans, quoi, 14-15 ans.
À ce moment-là, il y a eu le déclic, mais du coup, est-ce que avant tu tapotais déjà, tu avais
Non,
déjà
ça fait.
des...
Ah, avec mes frères et sœurs, on faisait. Je me souviens à l'époque, il y avait des barils d'Homo. Homo, c'était les grosses lessives. Ariel Homo, c'était des gros gros barils. Et moi, je m'étais fait comme une petite batterie fabriquée avec des cartons et tout, avec deux baguettes. C'était rigolo que j'avais pris. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, on était en appartement et au sous-sol, dans la cave, mes parents avaient aménagé vraiment le studio de répétition. Donc, quand on descendait dans la cave de l'appartement, c'était vraiment le vrai studio, quoi. La batterie, le piano, même les trompettistes laissaient leur instrument. Il y avait des marimbas, il y avait des guitares, tous les musiciens laissaient leur instrument parce qu'ils répétaient au moins une ou à deux fois par semaine. Donc quand on descendait là en bas, c'était la caverne d'Ali Baba. Donc je pouvais vraiment tapoter à tous les instruments.
Oh là là, c'est génial. Là, comme je te disais, moi je viens de rentrer à Strasbourg, justement, je viens de déménager et maintenant j'ai ce gros challenge de où est-ce que je répète?
Ouais.
Et cet après-midi, justement, je vais visiter un studio et voir comment c'est là-bas. Mais oui, c'est infernal. Je me dis toujours, purée, j'aurais dû jouer de l'harmonica, faire
Ouais, c'est
quelque
clair,
chose de
clair.
plus
Mais
facile.
tu vois, juste pour la petite histoire, regarde, bon, peut-être tu vas pas le mettre dans l'interview, mais tu vois, là, même chez moi, j'ai quelque part retransmis ça, quoi. C'est pas si tu vois, il y a la batterie,
Ah ouais.
il y a la guitare, il y a le piano, tu vois, c'est un truc qui me suit, tu vois, c'est
Ah
comme
oui,
ça,
donc
quoi.
là, du coup, tu es dans ton salon
Ouais.
et il y a ta DW qui est dans un coin, le piano, la guitare,
Ouais.
tout qui est...
Donc
Ah.
voilà, j'ai toujours reproduit ça, quoi. Toujours reproduit ce côté-là. Ouais, c'est important.
Ah
d'avoir.
oui, c'est fondamental, hein.
Et
Et
c'est
d'avoir
vrai
ce confort de
qu'un
pouvoir jouer facilement comme ça, ouais.
Ouais, puis je pense que quand t'as un enfant, t'es même ado, quand tu vois les instruments physiques, déjà physiquement, ça peut t'attirer aussi, quoi. Même si tu joues pas, voilà, le fait de voir des instruments, c'est toujours bien d'avoir des gens qui ont chez eux un piano, peut-être pas une batterie, parce que tout le monde joue pas de la batterie, mais déjà au moins un piano à la maison, c'est tout de suite, voilà, y a un appel à la musique, quoi.
Ouais, carrément. Et du coup, bah, c'est génial que tu aies eu bah, non seulement une famille de musiciens, mais en plus qui t'y pousse, quoi. Enfin, qui t'y pousse, qui t'y encourage, qui t'encourage à le faire et qui se disent pas, bah, je sais pas, essaye de faire autre chose. Non, ils étaient vraiment en
Alors,
mode, je te soutiens là-dedans.
ils ont quand même, oui, ils m'ont soutenu, c'est clair, pour la musique. Mais parallèlement, j'étais quand même à l'école. J'étais quand même à l'école. Ils voulaient vraiment que je fasse aussi des études, quoi. Donc j'étais jusqu'au bac. J'ai eu mon bac. Et après, j'ai fait. Ils voulaient genre quand même. J'ai un métier au cas où, quoi. Parce
Ouais.
que voilà, on sait jamais et tout.
La
Donc du coup,
sécurité, ouais.
la sécurité. Donc après le bac, j'ai fait une année de droit. Donc je savais pas trop quoi faire. Donc orientation, bah, j'ai fait du droit et tout. Et puis finalement, j'ai fait qu'un an, quoi. J'ai fait qu'un an. Et puis après, j'ai commencé à bosser. J'avais 18-19 ans. Voilà, je commençais un peu à bosser. Et voilà, j'ai voulu faire que de la musique.
Ouais, et comment ça s'est fait ce passage pour devenir pro? T'as fait quoi à 18
Alors,
ans pour en vivre?
c'est en dehors de mes parents, je jouais avec deux, trois groupes de jeunes de mon âge. Et en fait, le déclic pour devenir pro, c'est que j'ai joué avec une chanteuse qui s'appelle Angélique Kidjo et qui était en France et que maintenant qui fait une grosse carrière internationale. Mais à l'époque, elle venait d'arriver en France. Et du coup, je l'ai rencontrée. J'ai fait comme une mini audition et ça s'est bien passé. Et en fait, il y avait une petite tournée en France dans les, je sais pas les, je sais plus, c'était des petites salles en France et tout. Et puis après, on a joué au New Morning. Et je me souviens très bien de ce concert-là. À ce concert du New Morning, il y avait un gros producteur, le gros producteur de Bob Marley à l'époque, Chris Blackwell. Et lui qui faisait Island Records, qui a craqué sur elle et qui lui a dit, bah, je vais te signer. Et du coup, elle a fait un album aux États-Unis. Et quand elle est revenue en France, ce qui est super, c'est qu'elle a dit, je veux tourner avec mon équipe française. Donc
Ouais.
ça, c'est bien. Du coup, bah, j'ai commencé avec elle. Je faisais des tournées, j'allais au Japon, j'allais en Australie, j'allais en Angleterre, aux États-Unis. Donc voilà, pour moi, j'ai commencé la musique tout de suite dans des grosses tournées internationales. Donc c'était top, quoi.
Et t'avais quel âge là?
Là, j'avais 19, 20 ans, tout ça, hein, comme ça. Hein. Ah non, 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 non,
Ok,
non, non,
d'accord.
c'est plus vieux. J'ai commencé avec Angélique, j'étais à l'armée, donc je devais avoir 20 ans, parce qu'à l'époque, l'armée était obligatoire. Et ouais, je devais avoir 20 ans. Et j'ai fini, je pense qu'à 21 ou 22 ans, je ne sais plus les dates exactes, quand j'ai fini l'armée, je suis peut-être parti à 21 ans à l'armée, parce que j'ai dû décaler. Et je crois qu'à 22 ans, je me souviens, elle m'appelait, et j'étais encore à l'armée. Et donc, je dis, bah, je finis l'armée, genre au mois de juillet, août. Elle m'a dit, bah, c'est bon, bah, en septembre, on attaque et tout. Donc, le plus drôle, c'est quand j'étais à l'armée, elle avait des petites promos, elle avait des promos, des télés. Et un jour, je vais faire une promo à la télé. Et le lendemain, je retourne à l'armée. Et mon chef, à l'époque, il me dit, mais je t'ai vu hier soir à la télé. Et moi, pour pas trop dire ce que je voulais faire, parce qu'après, je me suis dit, ils vont me faire jouer et tout. Moi, c'était la planque à l'armée. Je voulais vraiment faire mon temps et puis après partir. Et j'avais dit, non, non, j'ai un frère jumeau qui fait de la musique. C'est pas moi, c'est mon frère. Je voulais pas parce que. Je voulais pas, je voulais juste finir mon temps, faire tout ce que j'ai à faire à l'armée et puis après partir et tout. C'était marrant. Donc oui,
D'accord.
je sortais de l'armée, quoi. Je sortais de l'armée et très vite on a tourné avec Angélique Kidjo.
Ouais, d'accord. Oh,
Donc voilà,
génial, c'est.
ça m'a aidé beaucoup. Du coup, après Angélique Kidjo, j'ai travaillé avec Tour et Kunda, qui était un groupe aussi qui marchait bien à l'époque et tout. Pareil, tournée un peu internationale. On a fait beaucoup, enfin Europe, beaucoup Europe. Italie, Allemagne, Autriche, Suède, Norvège. Donc ça, c'était cool. Et puis après, ah oui, après, je me souviens, j'ai enchaîné sur. J'avais un pote qui jouait aussi avec Tour et Kunda et qui était aussi directeur musical de Michel Fugain. Et Michel Fugain,
Ouais.
une tournée à l'époque, il a dit, moi, je veux que des jeunes. Je veux autour de moi que des jeunes. Donc il a appris des musiciens que. Donc il y avait comme une petite audition. Et puis moi, je remplaçais un batteur qui était là, déjà là. Et puis voilà, ça s'est fait. Et puis après, je suis rentré dans le milieu de la variété. Et puis voilà, c'est de petit à petit.
Ouais, là tu commençais à être avoir fait ton réseau, j'imagine, connaître
Voilà,
un certain
réseau,
nombre de
exactement.
personnes.
De personnes, j'avais 24 ans, quoi. 24. Donc 24 ans, 25 ans. Voilà, j'ai fait une audition pour Julien Clerc, j'avais 26 ans. Donc,
Ouais.
je suis parti en tournée, voilà, 27.
Ok.
Voilà, après, ça s'est enchaîné.
Et du coup, après l'armée, une fois que ça a commencé à se mettre en place, t'as jamais eu de trou, de période où t'avais pas de travail et
Ah,
t'as dû chercher un
toujours,
autre taf ou...
toujours, toujours. Alors, j'ai eu la chance, j'ai vraiment eu de la chance, c'est le mot, de finalement que tout s'est enchaîné. J'ai pas cherché un autre travail. Et tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que j'enchaînais les tournées, j'enchaînais les séances d'enregistrement, il y avait vraiment cette boulimie de travail. Donc,
Ouais.
du coup, j'ai pas cherché un autre travail. Mais avant l'armée, oui, quand j'étais avec l'orchestre mes parents, bien sûr, j'ai bossé dans une école de musique. Là, je débarrassais les salles de cours, je nettoyais un peu. C'était vraiment. Je m'occupais d'aller chercher les partitions, de ranger les salles. Voilà. C'était une école de musique. J'ai fait ça pendant un an. Voilà, j'ai fait quelques petits boulots. J'étais aussi chauffeur. À l'époque, j'avais un. Comment ça s'appelle? C'était pas un. Comment ça s'appelle? Les gens qui s'occupent. C'est pas que c'était consul, mais je sais plus. Il avait un poste important. Et du coup, je venais d'avoir mon permis. Et puis, j'ai trouvé une petite annonce comme ça. Il fallait le conduire. Et lui, il était de passage en France. Je ne sais pas si c'était un consul, je ne sais plus. Et donc, voilà, il fallait le balader dans tout Paris. J'étais son chauffeur, quoi. Ça, j'avais 20 ans. Des petits jobs comme ça, quoi.
D'accord, ok.
Des cafés aussi. Mais ça, c'est avant l'armée.
Oui, ça c'était avant que tout démarre, quoi, hein.
Exactement.
Et là, du coup, tu étais à Paris, tu as grandi à Paris, hein. Tu es
Alors,
né et tu as grandi à Paris.
moi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. J'étais aux Antilles beaucoup, parce que
Ouais.
avec mes parents. Et j'ai été aussi beaucoup aux Antilles grâce à la musique en fait, parce que j'ai travaillé avec un pianiste qui s'appelle Mario Canonge, les chanteurs Raph Tamar, l'équipe de Kassav aussi. Et du coup, j'allais beaucoup beaucoup aux Antilles. Donc j'ai vraiment fait un. Souvent les gens ils me disent mais tu as écrit une méthode sur les rythmes caribéens, pourtant tu es né à Paris, comment tu connais tout ça? En fait,
Exactement.
j'ai fait la démarche de recherche de tous ces rythmes adultes. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où ça a baigné. J'ai baigné dedans parce que j'avais mes parents des Antilles. On jouait la musique antillaise dans les bals. On faisait aussi musique antillaise. Toute musique. On faisait musique variété, musique antillaise. On faisait énormément de styles. Mais vraiment tout ce qui est le détail des rythmes, c'est à l'âge adulte que je l'ai fait. Donc c'est pour
OK.
ça que j'ai commencé à l'époque. J'enregistrais avec un dictaphone ou alors je venais d'acheter un mini disque. Je ne sais pas si tu as connu ça. Les mini disques, c'était des enregistrements où il y avait un CD et tu pouvais enregistrer numériquement. Donc à l'époque,
Ouais.
j'enregistrais les rythmes. Et puis j'ai beaucoup voyagé dans les rythmes, dans les îles. J'ai été en Haïti, j'étais à Trinidad, j'étais en Jamaïque, j'étais pratiquement toutes les îles, quoi. Antigua, tout ça. Donc toujours, je me renseignais sur les rythmes. Il n'y a pas une soirée locale, machin. Ah ouais, bah tiens, ouais, il faut que tu ailles là. Donc j'enregistrais et tout. Donc,
Ok, bah super, oui, c'était ma question justement. Je me demandais si tu avais grandi en Guadeloupe ou
Non,
si.
non.
Et on en parlait avec Jérôme Castries aussi, qui aime beaucoup ton jeu dans ces styles-là, justement. Et tu as écrit une méthode sur le sujet, mais du coup, c'est une réflexion qui s'est faite plus mature,
Plus
quoi, plus
mature,
adulte.
exactement, c'est plus mature. C'est-à-dire que je savais faire quelques rythmes, mais je ne savais pas à quoi ça correspondait. Mon père me disait, tiens, il faut que tu fasses ça comme ça. Mais après, à l'âge adulte, je me suis dit, ouais, mais ça vient d'où ce rythme-là? Ah ouais, mais comment on le joue là-bas vraiment, quoi? Donc, du coup, avec mes voyages. Et puis, le déclic aussi, c'est que souvent, quand je jouais les rythmes caribéens, tout ça, les gens me disaient, ah, mais ça vient d'où ça? Pourquoi tu croises quand tu fais ça? Pourquoi tu joues ça comme ça? Pourquoi tu tiens tes baguettes comme ça? Est-ce qu'il y a des méthodes? Et moi, je disais à chaque fois, ma réponse, c'est dit, mais non, il n'y a pas de méthode. Puis après, je dis, il faut que j'en fasse une. Parce que du coup, voilà, je voyage beaucoup. Donc, voilà, ça a été le déclic aussi.
Ok, d'accord. Et oui, comme tu dis, il y a le côté sur le papier, ça ressemble à ça, on le joue, voilà. Mais là-bas, comment est-ce qu'on le joue là-bas? Et ça,
Exactement.
c'est la grosse question de, on peut avoir une idée en écoutant des CD des locaux,
Et
des personnes qui ont
exactement.
grandi là-bas et tout ça. Mais le
Exactement.
mieux, évidemment, bah, c'est d'être là-bas, c'est de les rencontrer, de les
De
voir.
les
Tu disais
voir,
comment tu tiens
exactement.
ta baguette et tout
Voilà,
ça.
voilà. À la
Et
limite, tout à fait. Et si je l'avais fait maintenant, là, à l'heure actuelle, j'aurais plus filmé. Tu vois, j'aurais
ouais.
vraiment fait des vidéos. Mais à l'époque, bon, j'avais pas les téléphones portables et tout, c'était pas aussi perfectionné. Donc à l'époque, j'étais plus en audio. Mais j'étais content de
Ouais.
faire ça parce que du coup, le fait de les voir et les enregistrer, après, quand je réécoutais, je disais, ah ouais, d'accord. Et puis, il y a des rythmes qui sont vraiment que à la percussion. Et moi, j'ai adapté à la batterie, comment ça peut essayer de faire sonner ça à la batterie. Voilà quoi.
D'accord.
Mais
OK.
je pense que les gens m'appelaient aussi parce que j'avais cette double culture. Le fait d'être né à Paris, donc en même temps, mes copains de classe, ils écoutaient Téléphone, j'adore Téléphone, ils écoutaient Trust, ils écoutaient Deep Purple. Donc j'aime beaucoup aussi le rock parce que j'ai aussi grandi avec ça. Mes potes m'ont fait découvrir ça. Et en même temps, parallèlement, j'ai grandi avec tous les rythmes caribéens de par mes origines et ma famille. Donc, du coup, j'avais cette pète de double culture. Et en fait, je prenais un petit peu de chaque. Donc, des fois, dans le rythme caribéen, je mettais un peu de rock dans l'intention, dans la façon. Du coup, les gens me disent, ah, c'est bien, c'est énergique, comment tu fais ça? Tu vois?
Ouais.
Ou dans le rock aussi, des fois, dans les breaks, je faisais pas un break rock. Je faisais un ton, ton, avec des syncopes et tout. Les gens me disaient, ah, c'est bien ça. Donc, j'essayais de piger. Je pense que voilà, faut vraiment. Je pense qu'un musicien doit vraiment être très riche et très, comment dire ça, avide de rythme et de style de musique. Il doit s'imprégner de prendre tout ça, quoi. Après, à faire sa sauce, quoi. Je pense que
Ouais.
tous les musiciens, quand je vois des articles sur les batteurs, le plus grand exemple, c'est par exemple le batteur de Rolling Stone, Charlie Watts, qui a parallèlement son groupe de jazz, alors que c'est un
Ouais.
des plus grands groupes de rock et tout, et pourtant, pas de problème, lui, il a son groupe de jazz, il va faire du jazz. Et voilà, je pense que chaque grand musicien doit toujours s'inspirer de plein style, quoi.
Ouais.
Même
Ouais,
si,
ça fait
même si,
grandir, ouais.
même, même si par contre, même si on excelle dans un style, mais ça ne veut pas dire qu'il faut écouter que ce style-là. Voilà.
Oui, c'était dans, je crois, au Modern Drummer Festival qu'il y avait, c'était Derek Roddy, je me rappelle plus le nom de son groupe, mais du coup c'est du métal extrême, et qui disait que chaque batteur de métal extrême devait aller à des concerts de jazz, et il disait aussi surtout les jazzeux devraient s'acheter des t-shirts de Nile et voir des concerts de Nile. Et Nile, c'est le groupe de George Collias, là c'est
Bah
vraiment
oui,
très
Georges
très
Colliatt, bien sûr,
extrême.
je connais.
Ouais. Et du coup, j'adore cette idée. Ouais, tous les
Bah oui.
jazzeux devraient aller à un concert
Et
de voir Georges
oui.
Colias. Ouais.
C'est clair, c'est clair. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Déjà, c'est impressionnant comment ils jouent et tout, cette rapidité, cette facilité. Et puis c'est vrai que des fois, il y a même des guitaristes qui disent, bah, moi, j'écoute de la musique classique. Alors, c'est des grands guitaristes de rock et tout.
Ouais.
Voilà, donc.
Ouais, tout à fait. Et alors, du coup, avec tu as ton groupe Sac et Chaud, d'ailleurs, ça fait
Tout à fait.
un petit temps. Et tu parlais des rythmes caribéens et tout ça. Alors là, forcément, il y a une grosse influence, c'est très jazzy et très. Enfin, il y a une influence de ces rythmes caribéens. Et il y a un percussionniste qui joue des steel drums aussi.
À fait.
Et moi, je me demandais comment est-ce que vous composez ensemble, du coup? Est-ce que toi, tu composes tes parties déjà?
Alors, en fait, l'idée avec Sac & Chow, c'est vraiment un groupe, c'est-à-dire que chacun compose de son côté. Donc, moi, j'avais des idées, j'ai fait un morceau sur Sac & Chow qui s'appelle Ewa Belia. Donc, j'avais des petites idées, donc j'avais la mélodie un peu, j'avais un peu le rythme. Mais après, comme on est un groupe, chacun donne un peu son idée, ça. Voilà, on arrange à quatre. Même si l'idée au départ c'est seul, mais après on va arranger quoi. Je sais que dans mon morceau Ewa Belia, j'avais le rythme. Ah, c'est pas grave, je vais rappeler. Il y avait le rythme, mais après, du coup, tout ce qui est harmonique, tout ça, bah, c'est plutôt Mario Canonge qui est pianiste, voilà, qui a changé des choses harmoniques. Voilà. Donc
D'accord,
c'est
ouais.
vraiment l'idée à quatre, quoi.
Ok, et pour les compositions de comment est-ce que vous Vous accordez les steel drums et la batterie. Comment est-ce que vous
Alors, en
faites
fait,
pour composer tous les deux ensemble?
ce qui se passe, c'est que c'est surtout le piano et le steel drum qui se marient super bien. Le piano acoustique et le steel drum, il y a vraiment une sonorité spéciale, spécifique. Et donc ça, c'est super agréable et tout. Déjà, entendre quand tu fais un piano et steel drum, c'est déjà super beau. Donc après, la batterie se greffe dessus. Et l'idée, ça quelque chose, c'est vraiment d'allier les rythmes caribéens avec la culture jazz, en fait, l'influence jazz. Donc on va dire tout ce qui est jazz, ça sera Andy Narell et Mario Canonge, tout ce qui est harmonique, et tout ce qui est caribéen, ça sera donc Michel Alibo à la basse et moi à la batterie. Donc, et l'idée, c'est à quatre, on essaye de faire une sauce et voilà, de faire un groupe, quoi.
Et
C'est
oui,
pas
effectivement, il y a.
steel drum et batterie, c'est vraiment c'est à quatre. C'est steel drum piano qui va se marier avec la batterie basse, en fait, tout simplement.
Je comprends mieux, effectivement. Et oui, il y a carrément cette harmonie. Comme tu disais, il se marie avec le piano et le steel drum. Et il y a cette harmonie, et c'est pas que rythmique où les rythmes vont être similaires entre les deux, où ils vont faire des schémas similaires. Non, c'est vraiment cette harmonie, quoi, les notes qui.
Tout à fait.
Évidemment, faudra l'écouter pour les auditeurs. Hein, faudra écouter pour. Je mettrai des liens, hein, dans l'article, pour écouter Soke Show et tout ça, pour voir.
D'accord. Super.
Voilà. Et voir avoir une idée de ce que ça donne, cette harmonie entre le piano et le steel drum. Ça vaut le
D'accord.
détour.
Ah
Oui.
oui.
Je me demandais en ce moment, du coup, est-ce que vous tournez beaucoup avec Sake Show, ou est-ce que c'est. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps en ce moment?
Alors non, beaucoup moins. En fait, Andy est aux États-Unis. Il habite même maintenant à Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, c'est à côté de la Martinique, c'est une petite
Là
île.
là,
Donc,
oui.
il est quand même souvent là-bas. Donc, il est un peu moins disponible. Mario fait sa carrière. Moi, ça me prend beaucoup de temps avec les émissions The Voice. Voilà, plus que quelques tournées. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu moins disponible. Mais là, dernièrement, au mois de mars, il y a un grand big band allemand qui s'appelle HR Big Band, qui est à Cologne. Donc, on a été à Cologne. Et quand on a fait. On a fait un. L'idée, c'est qu'ils voulaient associer la musique de Sake Show avec un big band. Donc, ils ont pris un
Ok.
arrangeur qui s'appelle Mike Mossman. Et Mike, il a écouté la musique de Sake Show et il a mis un big band dessus. Et du coup, on a fait un concert enregistré. Donc, ils vont nous donner des enregistrements très, très bientôt. Et on a fait ça au mois d'avril. C'était mars, c'était au mois d'avril. Et c'était une super belle expérience. Voilà. Donc,
Ah
de
ouais,
temps en
du coup
temps, on
vous
fait.
avez publié. Il va
Oui,
y avoir
je
un
pense.
CD, ouais.
J'espère, j'espère. Alors, pour l'instant, déjà, on l'a fait dans le but d'une émission de radio. En fait, c'est comme. On va dire, c'est comme la maison de la radio qui commanderait, voilà, une espèce de. Comment dire ça session de travail avec un big band. Et puis le but, c'est qu'il y ait un concert et que le concert soit enregistré pour aussi diffuser à la radio. Voilà.
D'accord,
Donc
d'accord,
oui, je
d'accord.
pense qu'il va. Alors je sais pas si c'est un CD commercial, mais en tout cas, il y a des enregistrements qui vont rester. Ils vont nous donner des enregistrements. C'était une très très belle expérience. Voilà.
J'imagine. Je me
Ouais.
demande à quoi ça peut ressembler. Ouais, j'aimerais bien
Ah ouais.
entendre ça, effectivement.
Bah, je t'enverrai des petits liens sur Facebook si on est amis, je pense, je sais plus.
Je crois que je t'ai ajouté, on communiquait plus par mail, mais je vais regarder
Voilà.
ça, et oui, je te mettrai
Et
ça.
je te verrai parce qu'il y a eu des petits extraits vidéo Facebook, donc tu verras, c'est vraiment, ça sonne super.
Avec plaisir, ouais. Et alors, du coup, tu disais, là en ce moment, tu es sur The Voice, c'est ça qui te prend le plus de temps. Et avant, tu faisais aussi La Nouvelle Star,
Tout à fait, tout à fait.
donc pareil, un concept similaire dans l'idée où tu vas
Prochaine.
être batteur pour une chaîne télé. Et comment est-ce que ça s'est fait? C'est quand même assez différent. Et là, en plus, on est sur des choses où, évidemment, des groupes qui font des tournées, il y en a une flopée. Des batteurs reconnus qui font ça et tout ça, il y en a une flopée qui sont très bons. Mais faire des émissions comme ça, enfin, en France, vous n'êtes pas 10, quoi. Il n'y en a
Ouais.
pas. Et co comment ça s'est fait?
Alors, comment ça s'est fait? En fait, j'ai connu Olivier Schultes quand Olivier Schultes, qui est maintenant directeur musical de The Voice, et j'ai connu Olivier, j'avais 26 ou 27 ans, donc on se connaît depuis longtemps. Et lui était sur la tournée de Julien Clerc et son papa aussi, Jean Schultes aussi. Et donc du coup, voilà, on a gardé contact. C'est un ami, hein. Maintenant, on est quand même assez proches. Et à l'époque, Olivier me dit, on m'a appelé pour une émission de télé, La Nouvelle Star. Est-ce que ça t'intéresse de le faire? Et je lui dis, bah ouais, pourquoi pas. Il me dit, bah, t'inquiète pas, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend, on va dire, c'était que les directs à l'époque. Il y avait que 10 émissions en direct sur La Nouvelle Star. Ça prend, on va dire, 2 mois, quoi. 2 mois dans l'année, on fait ça et tout. Bon. Et ok, il me dit, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se faire remplacer. C'est que, voilà, quand je prends une équipe, c'est les 10 musiciens, voilà, c'est les musiciens qui restent pendant les 10 émissions. Ok. Et donc, voilà, on fait l'émission. Et en fait, c'est l'émission où il y a Maria James, Manu Katché, Dovatia et André Manucan. Et en fait, l'émission cartonne. Donc, du coup, ça se passe super bien et tout. Donc, deuxième année, on re-signe. Troisième année, quatrième. Et finalement, j'ai fait 6 ans avec La Nouvelle Star. Quand c'était sur M6, hein. Quand j'étais sur M6, pas quand c'était sur Direct 8. Donc, je fais ça sur M6. Après, La Nouvelle Star s'arrête. Donc, du coup, Olivier, on lui propose, parce que du coup, il a fait ses armes, on va dire, il a fait ses preuves avec La Nouvelle Star, on lui propose d'être directeur musical sur The Voice, une émission, une nouvelle émission sur TF1. Et là, on arrive, et pareil, carton. Donc là, Olivier dit, bah, écoute, Jean-Fi, ça te branche et tout. Bah, je dis, ouais, okay. Comme voilà, on s'entend bien, et puis il sait comment je travaille, comment je joue. Donc il me dit, bon, bah, Jean-Fi, puis moi, je fais toujours l'andouille avec les caméras, je souris, je me lève. Donc du coup, les réalisateurs, ils aiment bien ça. Quand j'étais sur l'anniversaire, j'étais filmé. Donc du coup, ils m'ont dit, bah, viens et tout, viens sur The Voice. Et là, pareil, l'émission a commencé, et c'est un gros carton. Et pareil, bah, là, ça fait la 6e année que je fais The Voice. Donc là, ça fait 12 ans que je fais de la télé déjà.
12 ans, et c'est dingue ça de se dire combien de fois j'ai fait pas mal d'interviews de batteurs là, et à chaque fois c'est je connaissais la bonne personne qui m'a appelé, qui m'a fait ça,
Ouais.
et généralement c'est ça, j'avais le contact, juste la personne qui m'a
Ouais,
appelé, qui m'a proposé, et boum.
c'est ça. En fait, c'est vraiment, je pense, dans la musique, je dis ça à beaucoup de jeunes parce que je fais des masterclass aussi dans les écoles de musique. Et souvent, ils me disent, mais c'est quoi la clé pour réussir? C'est quoi la clé? Et je dis, mais il n'y a pas de clé. En fait, il faut juste que tu te crées un réseau. Et tous les gens de ta génération, tu vas voir un pote guitariste qui prend des cours. De guitare dans une autre école de musique, toi tu prends des cours de batterie, et puis vous êtes potes, machin. Et un jour, ce guitariste-là, pour X raisons, il va faire une audition ou peu importe, il va rencontrer un pianiste qui va dire, ah ben moi je joue en ce moment avec un chanteur américain de passage aux États-Unis. Ah ben ok, machin, on va jouer avec lui à Paris et tout. Et puis voilà, et puis il suffit que ce musicien, ce chanteur américain qui est connu, et puis ils se disent, ah ils sont cool les Français, tiens, j'ai envie de partir avec l'équipe française. Et puis voilà, le truc s'est fait. Et un jour, ce guitariste dit, c'est quoi, je suis en tournée avec un tel et tout. Le batteur, il a un souci. Est-ce que tu veux venir nous rejoindre et tout. Et comme c'est ton pote, vous avez grandi ensemble, vous avez évolué. Et voilà, le truc se fait. Donc je dis aux jeunes, vraiment, gardez, prenez des contacts et surtout évoluez avec des gens de votre génération. C'est pas des gens de, moi j'ai 50 ans. C'est pas des gens de 50, 55, 60 qui vont vous faire travailler. C'est vous, les jeunes générations, qui allez faire votre réseau, qui allez travailler, créer des styles de musique. Par exemple, il y a des jeunes, je ne sais pas si c'est Kong ou un truc comme ça, Kongs. Tu sais, il y a un jeune DJ là, qui cartonne et tout. C'est super, hein, tout ce qu'il fait et tout. Et lui, pareil, il est tout jeune, je crois qu'il a 20 ans, même pas, ou 18 ans, ou 19 ans. Et il cartonne dans le monde entier et tout. Et il suffit que ce jeune-là, ça soit le meilleur ami d'un guitariste ou d'un pianiste ou d'un batteur. Et un jour, il dit, tu sais quoi, j'ai une semaine de concert en Australie, on joue dans des stades, tu veux pas m'aider à la batterie, parce que moi, je ferai mes trucs à DJ et je te prendrai à la batterie. Et puis voilà, le truc s'est fait. Et comme c'est très médiatisé, parce que machin, un jour, ah bah, David Guetta, ah bah, ça te donne une idée, machin. Il faut évoluer avec des gens de sa génération. Donc, je dis aux jeunes, vraiment, gardez, ne restez pas contre batteurs. Surtout, alors, le pire, c'est ça. C'est d'avoir que des contrebatteurs, et ça, c'est le pire du pire. C'est vraiment garder le contact avec des guitaristes, des pianistes, des chanteurs. Ah, il y a plein de jeunes. Un jour, je me souviens d'une petite jeune qui était choriste. Elle me dit, oh, je fais les chœurs et tout. Elle savait pas trop. Et puis petit à petit, puis maintenant, elle fait plein de chœurs au plein des séances d'enregistrement. Et voilà, elle a évolué. C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment évoluer avec votre génération.
D'accord, c'est bon à entendre. En plus, je me disais, pas trop avec des batteurs, pas trop traîner avec des batteurs, parce que traîner avec des batteurs, il y a l'avantage de des remplacements, éventuellement, d'avoir un pote batteur qui, voilà, qui ne peut pas assurer une date. Mais oui, avec les guitaristes, les autres musiciens, bah oui, c'est
Oui,
logique, ça a
c'est
du
vraiment le. Moi,
sens.
j'ai toujours évolué. J'ai des potes batteurs, hein, mais la plupart des gens qui me font bosser, c'est pas des batteurs. C'est pas des
Ouais.
batteurs. C'est soit un guitariste, soit un pianiste, soit c'est soit un chanteur, soit. J'ai toujours parce que en fait, il faut avoir le contact facile. Il faut avoir le contact. Ce qui m'a beaucoup aidé pour travailler, c'est j'ai toujours eu ce entre guillemets ce entre parenthèses ce capital sympathie. C'est-à-dire que moi, je vais discuter avec tout le monde, je vais voir, avec The Voice, je vais les voir, les chanteurs, ça va et tout. Bon, nous, c'est bien que notre job, c'est de vous mettre à l'aise et tout. Donc, ils sont vachement rassurés. Ils me disent, ah, le batteur, il m'a dit, voilà, moi, je vais travailler. Pour moi, je travaille avec tout le monde, quoi. Je vais parler avec le réalisateur de The Voice, je vais parler avec tout le monde. Ça peut être des coachs jusqu'au gars qui nettoie la salle à la fin, à 22 h, quand tout le monde est parti, lui, il nettoie et je dis, ça va, la journée n'est pas trop longue. Voilà, il faut toujours avoir le contact facile. Il ne faut pas rester
Ouais.
entre. Le pire, c'est de rester comme ça, fermé. La musique, c'est le
Ouais.
contraire. Tous les musiciens, on va dire les grands musiciens qui travaillent dans le monde entier, ils vont tous se dire ça, que la musique, c'est l'ouverture. C'est pas du tout rester dans son cocon. Et si on reste entre concombres, que batteurs, on est 4-5 batteurs et les autres, non, non, non. Et tout, ah, c'est la recette pour ne pas travailler.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est une chose qui les alors c'est Gérald du blog Wiki du site Wiki Drummers qui m'a mis en contact avec toi et qui était tout content que je lui parle de toi. Et à chaque fois que je parle de toi avec d'autres personnes et tout ça, tout le monde a l'air en mode c'est pas Jean-Philippe Fanfan, c'est ah ouais Jean-Philippe Fanfan et attends, je te donne le truc et tout. Ils sont tout contents de parler de toi et tout. Et est-ce que évidemment tu es un bon batteur, il y a tout ce il y a ce bagage. En tant que batteur, tu assures le job, tu es à la hauteur du taf qu'on va te donner. Mais derrière, est-ce que tu as des personnes qui te disent ça justement, qui t'appellent non pas que pour tes qualités de batteur, mais qui disent bah j'ai envie d'être avec toi on est bien ou je sais pas quoi.
Oui,
T'en as qui te disent ça
bien
que.
sûr, bien sûr. Je sais que, bon, je vais pas dire, mais je sais qu'en tournée, des chanteurs ou chanteuses, et ils me disent, putain, Jean-Phi, après, ils ont changé, voilà. Mais ils me disent, ah ouais, Jean-Phi, quand même, quand on est en tournée avec toi, c'est quand même le pied, quoi. Tu mets de la bonne humeur, tu as un côté, au niveau, tu es assez constant, quoi. Donc, c'est vrai, on va dire, j'ai un naturel positif, quoi. Je vais
Ouais.
et puis quelque part je me mets en empathie avec je me souviens une fois un chanteur et on faisait la balance et puis c'était des grosses salles et tout et puis après la balance j'étais voir le chanteur je dis j'étais comme ça devant le pied de micro je dis mais comment tu fais? Je dis mais moi je pourrais pas aller être comme ça avec le pied de micro et devant tous les gens et il me dit ah ouais. Et il me dit, c'est marrant que tu poses cette question. Je dis, ouais, mais franchement, j'admire parce que moi, perso, d'arriver comme ça sans la batterie, moi, la batterie, c'est ma chambre, quoi. Donc, je
C'est une
suis dans
petite
ma chambre,
cachette
c'est ma
en
petite
même
cachette.
temps.
Mais là,
Ouais.
un chanteur ou chanteuse, c'est à nu, quoi. Donc,
Ouais.
et donc, la personne m'a dit, je vais pas répéter, mais la personne m'a dit, mais tu sais, en fait, il faut que ça vienne de là, du cœur et du ventre, et que, voilà, on donne par là, quoi. Toi, tu donnes par les bras, la tête et tout, les 4 membres, en fait. Mais nous, c'est autre chose, quoi. C'est par le souffle, voilà, c'est les techniques de chant, en fait. Voilà, c'est les techniques
Ouais.
de chant et tout.
C'est vrai, c'est plus, comme tu dis, c'est plus à nu. Rien que de se dire, ils vont entendre ta voix. Je me dis, c'est vachement émotionnel, c'est vachement intime, tu vois, de se
C'est
dire,
clair, c'est clair.
c'est ma voix que je partage là directement. Alors que derrière la batterie, on aura peut-être plus une protection, quelque
Eh
chose
bien,
où
en
on.
fait, nous, la différence, je pense que quand on joue, c'est-à-dire qu'on va jouer, on va interpréter ce qu'on veut faire dans la tête. Et donc, on va l'interpréter par nos membres, c'est-à-dire les poignets et tout. Et après, le son va reproduire ce qu'on a envie d'entendre. Et après, ça va bien
Ouais.
sûr projeter sur les autres. Tandis que là, c'est vraiment. Il y a moins de paramètres, en fait. Il n'y a pas le membre qui va dire ça, il n'y a pas l'instrument qui va répondre. C'est vraiment. Ah, le son sort de la
Ouais,
bouche.
c'est
C'est-à-dire,
direct.
c'est direct, quoi. Donc, il y a moins d'intermédiaires. Donc, on est plus à nu et on est plus. D'ailleurs, tous les chanteurs et chanteuses sont hypersensibles. C'est des gens qui sont. Parce qu'ils prennent. Imagine de prendre 3 000, 4 000 personnes à l'écrit en acclamant ton nom. Voilà. Donc ils prennent tout ça et après c'est ah, ils sont complètement claqués, hein, c'est à moins de prendre beaucoup de drogue pour pas y penser. Mais c'est vrai que c'est. Et moi je m'intéresse à tout ça en fait. Je m'intéresse autant à un chanteur que je vais m'intéresser à un éclairagiste ou à un mec du son ou à la production. Je dis les coûts, combien ça peut coûter un spectacle. Je m'intéresse à plein de choses en fait. Et je pense que c'est
Ouais.
ça. Il faut vraiment s'intéresser à plein de choses, quoi.
Ouais, t'as une belle ouverture qui fait
Ouais,
que
une
bah,
belle
non seulement
curiosité.
tu vas aller vers les autres, mais en plus ça se ressent, ça se voit. Donc les autres vont certainement plus vers toi aussi. C'est pas que toi qui vas vers les autres, tu dois les attirer.
Ouais,
Il doit y avoir une
ouais.
certaine attraction
Voilà.
dans cette démarche.
Ouais. Donc, c'est vrai que la musique, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Parce que j'étais intimide, hein. Vraiment, plus jeune, j'étais intimide. J'étais pas comme ça, plus jeune. J'étais un gros timide. Et je me souviens d'à l'époque quand je jouais. Donc, je jouais sur un morceau et puis j'étais pas trop content parce que souci de perfection. Et il y avait des gens qui me disaient, ah, c'était bien et tout, bravo et tout. Et moi, je disais ma réponse à l'époque, je disais, ah non, non, mais je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, j'ai joué comme un pied, c'était nul. Et les gens étaient surpris, quoi. Et c'est petit à petit, les autres musiciens me disent, mais tu peux pas dire ça. Ça, c'est pas possible comme réponse. Je dis, ah bon? Je dis, non, mais ça, c'est ton ressenti personnel, tout le monde s'en fout. Ton ressenti personnel, ça, on s'en fout. On s'en fout, mais tu gardes ça pour toi. Tu peux pas dire, quelqu'un te fait un compliment et tu peux pas lui répondre par une réponse négative. Le compliment, c'est du positif. Merci ce que vous m'avez procuré et ce que vous m'avez donné. Et toi, tu dis, ah non, non, me dites pas ça, c'est nul. C'est-à-dire que tu réponds par du négatif. C'est pas possible, quoi.
Ouais.
Donc, j'ai.
Et c'est quelque chose qui peut en plus être pris personnellement. La personne
Exactement,
peut se
exactement.
dire, mais en fait, tu me dis que je suis nul en disant ça. C'est
Mais
un petit
ouais,
peu.
c'est vrai que j'entends rien. Pourquoi il me dit ça?
Ouais.
Donc, non, non, j'étais pas comme ça. Hein. Donc, petit à petit, en évoluant, voilà, en grandissant, parce que j'étais peut-être plus jeune aussi. Je pense qu'à l'époque, j'avais un souci de perfection et puis après, on relativise, quoi. On se dit, bon, bah, attends, c'est bon, on travaille déjà ton instrument et tu joueras mieux et la perfection, ça n'existe pas. Et de toute façon, même si ça existe, c'est ennuyant. Qu'est-ce que c'est ennuyant, la perfection? Ouais.
Ouais. Et du coup, tu penses que le fait d'être plus ouvert et d'avoir arrêté de faire ce genre de remarques, t'as eu un déclic avec quelque chose de particulier ou c'est juste une
Ouais.
évolution
En fait, je me suis dit, à partir de ce moment-là où j'ai eu ce déclic, donc je me suis dit, en fait, je vais être positif. Il a raison, et je vais pas être négatif. Si quelqu'un me dit, et en fait, je répondais, ah merci, c'est gentil. Et la personne, du coup, enrichissait, quoi, en disant, non, mais c'était vraiment bien et tout. Et puis ça, c'est bien aimé, vous avez fait ça et tout. Ah, écoute, après j'ai essayé de faire des choses effectivement, mais c'est bien, vous me dites ça, c'est effectivement ça me donne envie de perfectionner ce que vous m'avez dit et puis voilà, travailler sur ça et tout. Voilà, j'entamais une conversation et du coup
Ouais.
la conversation, il y avait un vrai échange et ça m'a beaucoup apporté. Les gens m'ont beaucoup apporté, tous les gens avec qui j'ai joué et même le public, ça m'a beaucoup beaucoup apporté. C'est toujours
C'est
intéressant.
marrant. Le...
En fait, il n'y a pas plus petit que soi. Mes parents me disaient toujours, mon père me disait, il faut toujours respecter l'autre parce que peut-être cette personne-là, un jour, va te sauver la vie. Et c'est vrai. Par exemple, tu peux dire, tu roules en voiture et on te double, fait une queue de poisson. Ouais, machin, ah, j'aurai ta peau, machin et tout. Et il suffit que toi, machin, tu continues. Et là, tu fasses un accident, tu tombes sur le fossé. Et la même personne, elle vient te sauver la vie parce qu'elle se dit, bon, mais quand même, tout, la voiture est dans le fossé, je vais le dégager et tout. Alors, il faut pas être. Faut toujours respecter les gens. On ne sait pas à qui on a affaire, donc.
Et je pense que c'est une plus belle dynamique simplement d'être dans cet état d'esprit. Et
Exactement.
le fait d'être plus ouvert à ce que les autres vont te dire aussi, je pense que c'est une belle manière d'améliorer ton jeu. Parce que comme tu disais, quelqu'un te fait une remarque et te dit, ah oui, et après ils enchérissent, ils disent, ah vous avez fait ça et tout. Et tu vas dire, ah oui, effectivement, à ce moment-là, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé d'entrer tel pattern, etc. Et
Exactement.
du coup, ça te fait prendre conscience de certaines choses et ça va te permettre de développer ton jeu. De manière
Exactement.
comme d'une manière, c'est une collaboration et pas
Tout à
juste
fait.
l'artiste de son côté qui va dire, voilà ce que moi je fais, c'est ma musique et écoutez-la et si ça vous plaît pas, bah merde. Non, là,
Ouais,
ça va plus
exact.
être une collaboration, quoi.
Moi, il y a un truc que j'adore. Il y a quelques artistes qui font ça. C'est après les concerts, ils vont faire des dédicaces. Et moi, j'adore aller voir les dédicaces parce que je trouve que les gens, quand ils sortent, ils ont une espèce de. Quand ça se passe bien, le concert se passe bien, ils ont une espèce de joie, ils ont une espèce de dynamisme, de positif. C'est très positif. Et de prendre toute cette énergie-là et même de parler avec les gens et tout, qu'est-ce que ça fait du bien? Et c'est enrichissant, quoi.
Ouais, carrément. Je suis tout à fait d'accord. Et alors, du coup, rien à voir, mais j'avais même pas tilté. En fait, évidemment, tu as été le batteur de la nouvelle star et j'avais complètement oublié que dans le jury, il y avait Manu Katché.
Tout à fait, tout à fait.
Et
Ouais.
donc, du coup, enfin, bon, voilà, pas la peine de
Ah
présenter
bah
Manu
ouais, c'est
Katché,
un
je
grand
pense.
batteur, c'est clair.
Mais tu le voyais souvent ou est-ce qu'il y avait un
Oui.
contact avec lui ou.
Oui. Alors, en fait, Manu est quelqu'un de réservé, finalement, assez
Ouais.
réservé. Donc au début, c'était vraiment bonjour, voilà, et très cordialement. Et puis petit à petit, on a vraiment pris contact. Et puis maintenant, oui, on se connaît bien, quoi. Donc on se voit, c'est toujours un plaisir de se voir. Bon, Manu est très pris dans des projets, toujours beaucoup à l'étranger. Mais quand on se voit, c'est toujours un grand plaisir, c'est clair. Et moi, je lui ai dit très vite, je lui ai dit qu'il était parti, qu'il faisait partie de mes batteurs, de toutes mes influences, et il en fait partie, quoi. Parce
Ouais.
qu'il a vraiment un jeu personnel et tout. Alors,
Il a une personnalité, ouais.
ah ouais,
Il a.
vraiment. Et il a apporté beaucoup à la batterie. C'est vraiment un musicien exceptionnel. Donc,
Ouais.
une grande admiration pour l'homme et pour le musicien.
Ouais. Et à la nouvelle star, il s'éclatait des fois. Est-ce qu'il
Oui,
quittait son poste de
il nous a.
jury pour aller un peu sur la
Alors,
batterie?
non, il est resté au jury. Vers la fin, pour les derniers morceaux, les derniers lives, il y avait une batterie montée pour lui et il pouvait faire un morceau avec les candidats tout de l'époque. Mais non, il restait vraiment sur le siège de jury. Mais il nous a beaucoup, beaucoup complimenté, hein. Beaucoup, beaucoup. Et puis moi, il disait le nom carrément. Il disait à la batterie, c'est Jean-Philippe Fanfan. Il disait au candidat, par exemple, tu as de la chance d'avoir un super batteur, Jean-Philippe Fanfan, parce que là, ça tournait vraiment, quoi. Et donc, non, il
Ouais.
nous a énormément complimenté, quoi.
Tu veux dire les musiciens de manière générale, ils nous a, tu veux
Musiciens,
dire
et
les
puis,
musiciens?
ou alors tous les musiciens, et moi aussi, je sais que moi aussi, il m'a souvent cité, oui.
Ouais. D'accord. Ok, super. Et alors, aussi, tu es beaucoup sur du coup, les télévisions, les tournées, etc. Mais en studio, tu as enregistré énormément d'albums. Et on va pas revoir tous les albums que
Ah
tu as
non, il y en a beaucoup.
enregistrés. Mais je me demandais, est-ce que, de manière générale, quand tu arrives en studio, tu te retrouves avec une partoche à suivre et on va te dire bah voilà tu sais je dois mettre tel coup à tel endroit tac 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 ou alors tu as plus cette liberté de composer ou de mettre la touche Jean-Philippe Fanfan.
Alors, en fait, il y a deux cas de figure. Soit t'as vraiment la personne qui a fait les morceaux déjà en maquette, donc il a déjà une petite idée. Donc soit c'est une partition, effectivement. Bon, c'est plus rare, hein. Ce cas de figure est vraiment plus rare. Soit c'est plutôt de l'audio, donc il a programmé sa petite batterie à la maison pour avoir une idée. Et après, donc il me demande de faire un petit peu cette base-là, et on va dire que 90% des séances, c'est quand même une touche personnelle. Donc
Ouais.
effectivement, j'emmène, j'écoute, s'il y a de l'audio un peu avant, j'écoute un peu par Internet. Et quand je sais déjà quel type de batterie je vais emmener. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu fais du studio, plus tu t'aperçois qu'il faut vraiment des palettes de sons complètement différentes. Donc
Ouais.
avoir du matériel complètement différent. Donc du coup, j'emmène la batterie, les batteries qu'il faut, on va dire, les cymbales qu'il faut, les caisses claires qu'il faut. Et après, on va dire, c'est la touche, 90%, c'est une touche personnelle. Donc voilà, l'idée, c'est de la créativité. Le studio, c'est vraiment le laboratoire pour moi, et on y met vraiment sa touche personnelle. Alors moi, la chance que j'ai, c'est que justement, peut-être avec les émissions ou peut-être les concerts aussi, j'ai fait beaucoup de styles. Vraiment, j'ai joué beaucoup de styles complètement différents. Donc je connaissais un petit peu, à savoir à peu près. Les styles à peu près. J'excelle pas dans tous ces styles-là, bien sûr que non. Mais il y a pas mal de styles où je peux repérer, parce que du coup, comme j'ai déjà l'expérience de les avoir joués, ce style de musique, ce style de morceau, ça m'a donné une grosse culture musicale, c'est clair.
Ouais. Et pour les batteries que t'amènes et le matos que t'amènes, donc t'es endorsé DW.
Tout à fait.
Et en cymbale, t'es
Alors, Sabian.
Zildjian?
Non,
Sabian,
Sabian.
d'accord.
Sabian.
D'accord. Ouais.
Donc, j'ai pas mal, hein, j'ai un parc de cymbales vraiment bien conséquent. J'ai un parc de caisses claires aussi. J'ai pas que des caisses claires DW. J'ai aussi des Ludwig, j'ai aussi des Gretsch, j'ai Rogers, j'ai des vieilles caisses claires aussi. Donc J'ai un parc de casquettes aussi assez intéressant. Voilà, c'est, je suis suivant le style.
Ouais, donc après, t'es vraiment, t'as une palette de choix et tu amènes, tu sélectionnes un
Exactement.
certain nombre de choses en fonction de ce qu'on te demande, quoi. Hein.
Tout à fait.
Ok, d'accord. Et alors, pour finir, est-ce que toi, en ce moment, tu prends des cours? Est-ce que t'as un prof de batterie?
Alors, j'ai pas de prof de batterie, mais on va dire j'ai pris un cours là il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai été à Los Angeles l'année dernière. Enfin non, c'était cette année en janvier. J'étais au NAMM, NAMM qui est le gros salon de la musique américain, le NAMM Show. Et en fait, j'ai fait une semaine. Donc, j'ai fait 3 jours de NAMM. Et avant, j'étais avec l'équipe de Wiki Drummer, d'ailleurs, Gérald. Il m'a dit non, mais viens avant le NAMM parce qu'il y a un gros salon de la batterie qui s'appelle le Drum Off, qui est un gros festival de batterie. Et il m'a dit, tu verras, il y a tous les gros batteurs du moment. Donc, il faut que tu les rencontres, machin. Et puis, tu verras, c'est un très, très beau festival. Donc, j'ai fait ça. Et j'ai un ami à Los Angeles qui m'a dit, ah, j'ai envie, t'es là, génial, bah, on va te sortir. Donc, tous les soirs, et on sortait, on est sortis tous les soirs. Et à la fin de ce séjour, on a fait donc le Drum Off, le NAMM Show. Eh bien, je te dis, pour moi, j'ai pris le plus grand cours, enfin, un très grand cours. Ce n'est pas le plus grand cours de ma vie parce que j'ai pris des cours plus jeunes et tout. Mais là, j'ai pris une grande leçon. Parce que je me suis dit, waouh, il y a des jeunes qui prennent pas trop de cours, mais ils ont tous ces batteurs de gospel shop, tu vois, avec cette énergie et tout. Et du coup, j'ai discuté un petit peu avec les gars et tout. Et j'ai vu leur façon de travailler et tout. Et je me suis dit, waouh. Et quand je suis rentré, je me suis mis à travailler. Je me suis mis à travailler déjà la façon de tenir mes baguettes. Donc, j'ai travaillé une autre technique de baguette, une autre façon. J'ai développé un autre jeu. Donc, j'ai déjà une technique. Et là, j'ai développé. Alors, je sais pas si tu vois, j'étais comme ça en tambour, timbalier. Et maintenant, j'ai fait une technique vraiment comme ils jouent au serré, quoi. Moderne, timbalier avec les baguettes vraiment, je sais pas si tu vois, très serré. Tu vois?
Très parallèle. Avant, tu
Très
étais plus
parallèle.
en German grip avec
Voilà,
les paumes face
exactement.
au sol et maintenant tu es plus en French grip avec
Exactement.
les... Ouais.
Avec vraiment la baguette au bout du vraiment bout de la main là, la poignée,
Ouais.
la paume et la baguette est vraiment très très longue pour aller chercher mon amplitude. Et j'ai pris donc j'ai pas pris de cours, mais en rentrant j'ai pris un local de batterie et je me donnais quand je suis à Paris, parce qu'à Paris j'ai pas de local vraiment pour bosser. Donc j'ai pris un local et je me suis mis des plages je me suis dit allez, 4 heures par semaine, c'est déjà pas mal parce que avec mon emploi du temps, des fois c'est un peu compliqué. Mais 4 heures par semaine, 2 heures le mardi et 2 heures le jeudi. Donc travailler parce que et donc je me suis mis à travailler plus du pad à la maison chez moi aussi le
Ouais.
soir. Et ben du coup ça m'a donné une façon de jouer, un autre son et maintenant je comprends mieux les passages quand ils font dans les Scope Fest Shop, je comprends mieux. Et maintenant je regarde beaucoup la façon dont les batteurs tiennent leurs baguettes. Donc j'ai pris du cours, en fait, le fait de regarder et de filmer, parce que là j'ai fait des vidéos quand j'étais voir. C'était beaucoup avec l'équipe de Snarky Puppy, tous ces batteurs qui sont incroyables et tout, Larnell Lewis, Spot, enfin bref. Et tout ça, j'ai regardé et tout, je me suis dit, waouh, ah d'accord. Et en fait, ils jouent tous comme ça, en fait. J'ai compris, il y a un batteur extraordinaire qui s'appelle Ronald Brunner.
Junior, Brunner Junior.
Terrible, là-bas, enfin, tu vois, c'est des monstres hein, qu'on a vus et tout. Et quand on les a vus jouer à 2 mètres, tu vois, donc tu comprends mieux, en fait, tu vois comment ils jouent, tu vois l'attitude. Donc, oui, quelque part, ça a été mon cours de batterie et même encore au jour d'aujourd'hui, je retravaille encore. Voilà, ça m'a fait un bien fou.
Génial. Donc ouais, t'es pareil, t'es dans comme en tant qu'humain pour la batterie, pareil, t'es dans cette ouverture, prêt à réceptionner,
Ah oui, ah
et
ben,
tu
tout à fait.
chopes ce que tu vois,
En
quoi.
fait, tu vois, ce travail-là que j'ai fait, ça me rappelle je reviens dessus, mais ça me rappelle quand j'ai fait mes rythmes caribéens. C'est-à-dire que j'allais voir, j'enregistrais, je regardais, et après, je dis, ah non, il faut que je travaille ça et tout, comment faire ce rythme-là et tout. Et là, maintenant, tu vois, au jour d'aujourd'hui, c'est différent. C'est comment travailler une autre façon de tenir mes baguettes, de faire des placements, des ouvertures. Et du coup, ça m'apporte dans mon jeu quelque chose de différent, et j'aime beaucoup. J'aime ça apprendre, en fait. J'ai toujours aimé. Je pense que les batteurs qui bossent, c'est ceux qui ont soif d'apprendre, en fait. On se lasse jamais d'apprendre. Et là, mon voyage à Los Angeles, ça a été bénéfique. J'ai beaucoup appris. Beaucoup.
D'accord. Génial. Et du coup, t'as pas eu de professeur particulier, quoi. C'est un
Non.
apprentissage plus, mais t'as pas vu, t'es pas allé voir Thomas Lang à Los Angeles, quoi.
Non, 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 non. C'est-à-dire que Thomas, j'adore, hein, j'ai un grand respect parce que c'est vrai que c'est techniquement, pour moi, c'est la batterie au plus grand. C'est ce qu'on peut faire avec cet instrument-là, quoi. Ce qu'il peut faire
C'est
avec ses
l'apogée,
pieds,
quoi, un peu, ouais.
l'apogée, exactement. Il est vraiment incroyable. Moi, je suis plus dans l'artistique que dans la technique même. Je
Ouais,
pense que pour moi, il me faut un peu de vocabulaire, c'est-à-dire vocabulaire de technique pour pouvoir ce que j'ai à exprimer. Mais le fait d'écouter un groupe va m'apporter autant que de travailler vraiment m'enfermer à faire que de la technique. Et
oui.
moi, l'artistique, c'est vraiment très important, quoi.
Ouais, tout à
Pour
fait.
moi, j'ai une démarche quand on me dit, Jean-Philippe, mais c'est quoi ton style? Je dis, ben, mon style, pour moi, je suis un batteur, mais je suis un artiste. J'aime créer des choses, faire des rythmes, mélanger, voilà, des coups. Manu Katché, c'est un artiste, c'est un artisan. Voilà. Pour moi,
Ouais.
moi, je suis plus artisan, voilà. Comme Manu, comme des batteurs artisans, qui vont apporter une touche musicale, on va dire, qui vont, des fois, peut-être pas jouer, ils vont faire tac-tac, ils vont s'arrêter, et puis, deux coups de cymbale, et reprendre. Mais c'est tellement dans la musique que vraiment faire le truc pour que ça soit très technique. Voilà.
Ouais.
Mais attention, je respecte la technique, tous ces grands batteurs qui ont une technique incroyable, des voix que tout ça, mais je suis vraiment en admiration extrême. Mais personnellement, j'irais pas prendre un cours, par exemple, avec Dave Weckl,
Ouais.
parce que je sais que, voilà, techniquement, je serais content, mais c'est pas ce qui, au fond, pour moi, ça va m'apporter personnellement, c'est pas ce que je recherche.
Ouais.
Je vais
Ouais, je
prendre un
comprends tout à
cours
fait.
avec par exemple, un vieux batteur, je sais pas, c'est pas qui, Roy Hens, qui a 80 ans et qui joue péniblement parce qu'il est âgé maintenant, mais il a tellement cette culture musicale depuis, c'est l'histoire, pour moi, c'est l'histoire du jazz. Donc oui, le fait que même un cours et je le regarde jouer pendant 1 heure, et même si je ne joue pas, ça pour moi, ça va être un grand cours. Voilà, plus que de
Ouais.
voir quelqu'un qui joue de la technique. Voilà. Parce que je sais que la technique, je me mets dans le local et je peux la travailler. C'est-à-dire que je me mets avec un bouquin, parce qu'il y a des bouquins qui sont super, tu travailles que la grosse caisse, que de l'indépendance, que de la coordination, tout ça. C'est-à-dire que c'est un travail que je. Mais le travail artistique, c'est difficile. Il n'y a pas de bouquin sur comment devenir un artisan, un artiste. Il n'y a pas. Donc
Ouais,
c'est des
sur la
choses personnelles. Il
créativité et
n'y a
sur
pas. Il n'y a pas.
c'est différent. Ouais.
Des fois, dans mes masterclass, je joue et puis des fois, je me mets beaucoup aussi à parler. Et les gens me disent, ah ouais, tu as parlé de choses et en fait, tu m'as vachement appris des choses où j'avais pas pensé. Je pensais que tu allais jouer pendant 1 heure, 1 heure et demie et faire toute la technique et tout. Non, 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 parce que la musique, ça passe aussi par d'autres choses que de la technique même. La technique,
Ouais.
ils sont dans des écoles de musique, ils vont travailler la technique, c'est fait pour ça, ils ont des profs pour ça. Et la musique, c'est important aussi, c'est le partage aussi, quoi.
Ouais. Et je pense que moi, il y a une chose qui m'inspire énormément, c'est tout ce qui va être les lectures de développement personnel et l'ouverture, ce dont on parlait avant, ça, l'énergie, l'ouverture, etc. C'est quelque chose qui m'influence énormément autant dans ma vie de tous les jours que en tant que batteur, que derrière l'instrument. Et il y a de plus en plus de mouvements sur la créativité. Et de manière générale, il ne faut pas chercher créativité batterie, il faut chercher créativité tout court. Et il y a de plus en plus de livres, de choses sur le sujet. Donc oui, c'est une
Tout
excellente
à
chose. On
fait, tout
commence
à
à
fait.
trouver
Ouais,
ce genre
à
de choses.
trouver. Tu sais, il y a plein de batteurs. Je me souviens à l'époque, bah, j'avais quoi, 19 ans, 20 ans, donc j'étais très, très devoical. Tu vois,
Ouais.
donc il avait sorti un livre, c'était un master plan ou un truc comme ça. Un livre qui était en cassette à
D'accord.
l'époque, où il expliquait, il avait joué et après il avait écrit tout ce qu'il avait joué. Donc je travaillais ça et tout. Et un jour, on m'invite à un concert de Burning Spear, concert de reggae. Et il y avait le batteur jamaïcain là, et je le vois jouer. Il n'avait pas beaucoup de technique, hein. C'était vraiment limite raide.
Ouais.
Vraiment très très raide. Et puis il faisait des breaks. Mais ça tournait tellement dans la musique que j'ai pris une claque et je me suis dit, mais la musique, c'est ça en fait. Il y a Weckl, que je travaille, mais il y a ça aussi. Le mec, au niveau technique, il n'arrivait même pas au quart des Weckl, mais pourtant, dans la musique, il était tellement groovy et que ça tournait tellement. Et je me suis dit, j'ai pris une claque autant avec ce batteur-là, j'ai oublié, j'aurais dû retenir son nom à l'époque, mais j'ai oublié. Donc j'ai pris autant une claque que lorsque Dave Weckl, je bossais les plans de Dave Weckl de l'époque. Donc c'est
Ouais,
ça,
ça a
hein.
du sens.
Ça a du sens. C'est le truc où on se dit, waouh, la musique, c'est ça aussi, quoi.
Exact. Ok, génial. Et toute dernière question, c'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui?
Alors j'ai eu un challenge il n'y a pas longtemps quand j'ai été au mois d'avril dans le Big Band. C'est que l'arrangeur avait fait des morceaux et il avait écrit toutes les partitions des batteries. Et à un moment donné, je vois, bon, je dis la musique hein, quand même, je sais lire la musique, mais là, il y avait des partitions, waouh quoi, c'était vraiment à l'ancienne, il avait tout écrit à la Charlet, l'ouverture de Charlet Pré et tout. Oh! Et du coup, c'était difficile. Parce que en plus, il y avait des métriques. Il avait mis du 11-8, du 11-9. Non, 8, ça va, mais il avait mis du 11-9. Je ne savais même pas lire le 11-9 et tout. Donc, je demandais comment ça se lit. Donc, voilà, c'était un challenge de me mettre vraiment en condition batteur de métier, qui lit super bien et qu'on donne la partition et tu joues, quoi. Et là, waouh, c'était difficile. Alors là c'était un challenge. Bon, j'ai réussi. Parce que voilà, j'écoutais. Après, j'ai une oreille musicien. Donc, j'ai compris que le 11-9, en fait, c'était. Voilà, j'ai compris les équivalences. Mais c'est vrai que quand j'ai lu la partition, j'ai fait waouh! Ah ouais, c'est dur. Ah non, non, je ne vais jamais y arriver, quoi. Je ne suis pas un lecteur. C'est le mec de musique classique qui lit ça, quoi. Les percussionnistes classiques, c'est. Donc, ouais, là, j'ai eu chaud. Franchement, transpiré. Et le soir, dans la chambre d'hôtel, je me suis mis à travailler. On a enregistré. Et après, j'écoutais, même s'il y avait fait des erreurs. Et après, j'ai essayé de me remettre et tout. Parce que les mecs, ils lisent super bien, ça leur fait pas peur, quoi, tout ça. Ils lisent ça. Mais moi qui est un lecteur, ça va, je sais lire, mais pas quand on me donne des choses hyper compliquées. Ça, c'est un gros challenge, quoi.
Ouais,
Et
d'accord.
même aussi, bien sûr, ça peut être aussi quelque chose à jouer difficile. Si par exemple, un jour, pour X raison, on me donne du métal à jouer sur The Voice, tu vois, avec la double pédale, je sais pas jouer de la double, quoi. Je fais un petit peu, mais les trucs à la Georges, tu vois, je pourrais pas un truc.
Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup,
Pas de
Jean-Philippe.
souci, pas de souci.
C'était vraiment cool. Et ouais, j'adore cette ouverture, c'était bien quoi, c'est facile de te parler et tu t'ouvres facilement.
Ouais, il faut, hein. Je pense que c'est je dis ça à tous les jeunes, je dis, c'est quoi la clé de la réussite? Voilà, intéressez-vous à plein de choses et aussi aux gens. Aussi aux gens. Parce que c'est un métier, l'humain est très important. Et à deux batteurs qui jouent super bien les deux, on va prendre celui qui est plus sympa. Quand je dis sympa, c'est-à-dire le plus ouvert, le plus. Voilà. Parce que maintenant, il y a le choix. Enfin, il y a toujours eu le choix, mais encore plus maintenant, il y a plein de jeunes qui arrivent. C'est plus difficile maintenant pour bosser, quoi, en faire son métier. Mais si on a ce capital sympathie, on s'intéresse, on a de l'ouverture, la personne va bosser. C'est clair.
Et faut pas oublier que quand on est en tournée, par exemple, on passe plus de temps avec les artistes en dehors de la scène que sur la scène. Donc c'est
Exactement.
fondamental que ce
Ah
soit
ouais.
agréable d'être avec la
Ouais.
personne, quoi.
Ça arrive, hein, des fois, il y a des musiciens qui jouent super bien et puis tu pars en tournée avec eux et puis ça va, tu vas bien, ouais, ça va. Non, j'ai pas envie de parler aujourd'hui, machin. Ou alors ils sont toujours en train de râler. C'est-à-dire, à un moment donné, le chanteur ou la chanteuse, il veut dire, bon, lui, il râle tout le temps, il me saoule, il me donne des mauvaises vibrations parce que, encore une fois, comme je disais, un chanteur et une chanteuse, c'est des gens très, très sensibles. Donc, du coup, ils vont changer. Et puis après, la semaine suivante, tu vois qu'il y a un nouveau guitariste, tu dis, ah merde! Il dit ouais, non, mais je me suis séparé parce que lui, trop râleur, quoi.
Il
Donc,
râlait trop sur la
ouais,
bouffe.
voilà.
Tout
Non, mais
bête,
plein de
hein,
trucs.
mais
Non,
oui,
mais
ouais.
les gens, soit la bouffe, soit, oh, tiens, j'ai mal dormi, ou, oh, tiens, mon téléphone, il marche pas, oh, tiens, machin, t'as vu, il y a toujours un truc qui va pas, quoi. Et ça, en tournée, c'est le pire. C'est le pire. C'est le pire. C'est déjà cool de partir en tournée et de faire des concerts devant des gens, et c'est déjà cool, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui sont à la maison, ils disent, putain, qu'est-ce que j'aimerais
Mais oui.
en tournée. Donc,
Bah oui, carrément. Quand je vois des groupes, je me même si quand je vois un concert, même si des fois bah, pour X raisons, t'apprécies pas, ça te parle pas ou tu le ressens pas, voilà, mais je me dis j'applaudirai toujours ces personnes-là, elles sont en train de se déplacer, de faire elles ont travaillé pour en arriver là
tout
et
à
que tu
fait.
apprécies ou pas, il y a quelque chose derrière qui mérite les applaudissements quoi qu'il en soit quoi.
Exactement. Mais c'est bien de penser comme ça. C'est bien parce que du coup,
Ouais.
tu te dis qu'il y a des gens qui travaillent, tous les gens, c'est vraiment un métier de la musique et toutes les petites mains derrière aussi, les techniciens, celui qui a monté la scène, les lumières là-haut, qui a mis les boulons pour que les lumières tiennent. Tout ça, c'est des petits,
Ouais.
c'est aussi important que la personne qui va être devant au feu de la rampe, quoi. Donc,
Oui. Tous ces
c'est.
métiers de l'ombre,
Ouais,
ouais.
l'ombre, c'est tous ces métiers-là qui font que la personne va briller à la fin, mais il faut
Ouais.
vraiment aller vers les gens, c'est clair. Et les gens aussi, ils vont prendre
Carrément.
leur billet, ils vont dire, ah, il va y avoir tel artiste, voilà, ils sont peut-être mal, ils ont passé peut-être une journée, une mauvaise journée, et ils arrivent au concert, et là, tout d'un coup, c'est la détente. Ah, qu'est-ce que ça a fait du bien, merci, quoi. Donc,
Ouais.
c'est tout ça qui est important.
Leur
Voilà.
apporter un peu de bonheur.
Exactement.
Ok, très bien. Bah, merci beaucoup,
Pas de
Jean-Philippe.
souci. Et tu
Et
m'envoies tout ça. Et puis, ouais, tu m'envoies tout ça quand
ouais,
c'est
avec
fini. Ok.
plaisir.
Bon, j'ai
Yes.
beaucoup parlé, donc tu pourras faire des montages.
Yes.
Ok.
À bientôt.
Allez,
Ciao, ciao.
très bien. Salut. Salut, Aurélien.